avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
En direct du Salon de l'Agriculture, stand Village Semences. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour effectivement cette émission spéciale de Invino Sud Radio en direct de ce beau salon. À côté de moi, l'apôtre de la consommation modérée et responsable avec une belle barbe, Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde et également meilleur sommelier avec un restaurant magnifique qui s'appelle le Bistrot du Sommelier à Paris, mon cher Philippe. Vous avez une très jolie photo depuis 10 minutes. Qui est la personne à côté de vous là?
Il y a beaucoup d'effervescence ce jour, oui, d'inauguration du salon et juste à deux pas de nous, il y a quelques instants, donc on a pu croiser le président de la République, monsieur Emmanuel Macron,
qui apprécie les bons vins.
Et Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, et tous les deux sont des amateurs de bonnes choses. D'ailleurs, ils profitent largement des vertus de ce salon avec fromage, bière, vin, charcuterie et autres.
C'est paradis ici, quoi.
Exactement. Là, ouais, nous étions sur le stand des Brasseurs de France il y a quelques instants pour une rencontre et une discussion sérieuse, j'allais dire, en même temps autour de la bière, parce que c'est vrai que goûter, se mettre autour d'une table, c'est aussi aborder des sujets, y compris des sujets de fond sur la difficulté de l'agriculture aujourd'hui et sa place dans la société.
Alors, plein d'invités aujourd'hui. On commence par Sophie Kessler-Mathière, propriétaire et gérante du château de Calissane. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous étiez avec nous l'an passé, vous revenez. Le salon d'agriculture, pour vous, c'est quoi? Ça vous gagne, quoi. C'est génial,
alors,
non?
Alors d'abord, c'est toute ma vie, parce que je viens au salon de l'agriculture depuis l'âge de 11 ans. Au départ, c'était pour les vaches. Maintenant, c'est pour la
viticulture. Pour les vaches, c'est-à-dire?
Oui.
Faites de la concurrence à Nadège? On en parlera tout à l'heure.
Non, pas du tout. Oui. Mon grand-père était agriculteur. Donc là, aujourd'hui, je viens en tant que viticultrice, oléicultrice, puisque le domaine est situé au bord de l'étang de Berre, château Calissane.
1200 hectares, c'est énorme.
Ouais,
hein.
Ouais.
Vous avez de la chance. Hein.
Ben, c'est un territoire. Ouais. Et alors, on vient de découvrir qu'on a un loup.
Un loup.
Un
vrai. Vous n'avez pas un problème, vous avez un vrai loup.
Il y a un vrai loup, oui, un vrai loup qui attend ses moutons.
Hein. Et alors, quel rapport avec vos 8 petits labradors qui sont nés cette nuit?
Alors, les petits labradors, ils ont 3 mois,
oui,
mais ils vont cohabiter.
Avec le loup, quoi.
Exactement.
Bon, très bien.
Et avec le renard aussi, puisqu'on a apprivoisé un petit renard et qui folle régulièrement sous les fenêtres.
Bon, ça fait un drôle de mélange. Philippe,
la prochaine étape, c'est un zoo, finalement.
Ouais, ouais. Le zoo de Calissane.
Non, ça s'appelle la biodiversité.
Mais oui, c'est formidable.
C'est ça.
1200 hectares, Philippe Orbach, c'est énorme. Hein.
C'est énorme.
Il y a beaucoup de vignobles en France, alors même si tout n'est pas planté en vigne.
Ce que j'allais dire, 1200 hectares, c'est la propriété que j'ai l'occasion de connaître du côté de l'ensemble de Provence, mais 1200 hectares ne sont pas plantés. Il y a quelle surface de vigne?
Il y a 110 hectares plantés, il y a 60 hectares d'oliviers.
Oui.
Il y a 80 hectares de grandes cultures et des truffes. Mais là,
on n'en parle pas. À gauche, à droite. Alors, Sophie, racontez-nous les cépages plantés sur tous les hectares. Vous êtes en quelle appellation? Quels sont les
alors,
cépages?
Alors, on est en appellation AOP Coteaux d'Aix en Provence. On a essentiellement de la Syrah, des Grenaches, du Vermillon, du Cabernet Sauvignon aussi, du Vermentino.
Vous produisez les trois couleurs?
On produit
blanc,
les trois couleurs. Alors, à 60% le rosé, après 30%...
Ça reste quand même majoritaire. Hein.
Pardon?
Ça reste majoritaire, le rosé, dans
ça
la
reste,
région.
Ça l'était pas il y a 15 ans.
Ouais,
ça l'est devenu. Mais c'est la demande. Et puis, la Provence a pris l'image du rosé, du bon rosé. Alors qu'au départ, c'était un terroir de rouge. Alors, les rouges sont excellents, les blancs, merveilleux. Mais le consommateur connaît plus le rosé.
Mais pour faire des bons rosés, il faut un joli terroir de rouge.
Exactement.
C'est ça qui donne effectivement
c'est tout à
l'âme
fait ça.
Et la,
c'est
l'émotion
tout à fait ça.
Que l'on a dans
on a le droit d'irriguer, c'est une dérogation.
C'est autorisé
dans l'appellation.
Est-ce que c'est une bonne chose, Philippe Orbach? Parce que parfois on irrigue, on n'irrigue pas, parfois ça bidouille, hein, faut le dire. Oui.
C'est pas que ça bidouille, c'est que dans la législation, elle est assez précise. Normalement, on ne doit pas irriguer après 3 ans de plantation, sauf si c'est nécessaire. Et dans les régions sud, c'est nécessaire.
C'est chaud, quoi, quand même.
Et surtout qu'il y a l'eau à proximité, donc il y a une légitimité, j'allais dire, à utiliser l'eau.
On utilise l'eau du canal de Provence, mais nous, la propriété est indépendante en eau, puisqu'il y a plusieurs sources qui traversent la propriété, et donc on est pratiquement indépendant.
Alors, vos
donc
bouteilles,
ça, c'est une grande force.
Ça fait combien de bouteilles par an au total produites, Sophie?
Alors, à Calissane, ça fait 650 000 bouteilles par an.
Ouais, il faut quand même les vendre, vous n'avez pas de pouvoir.
Il faut les vendre, il faut avoir de l'énergie pour le vendre.
Vous les vendez où alors?
Alors, on les vend en France. On a ouvert une boutique Château Calissane à Berlin. C'est la première boutique
alors,
de.
Pourquoi Berlin? Alors, on aime beaucoup Berlin avec Philippe, mais pourquoi Berlin?
Parce que c'est une grande histoire.
Bah,
c'est une grande histoire d'amour, Berlin.
Votre mari est berlinois?
Non.
Ah, bon.
Non, il était pas
votre
Berlin,
chien,
non.
Votre labrador vient de Berlin ?
Non plus.
Toujours pas.
Non plus. Mais il y a une grande passion pour Berlin. Du coup, on a ouvert une boutique il y a 18 mois qui cartonne. Et c'est la seule boutique de propriétaires récoltants français à Berlin.
Et vous comptez en ouvrir dans d'autres villes ?
On vend l'image
ou...
de la Provence, on vend le vin, puisqu'on est aussi oléiculteur, on vend de l'huile d'olive. On vend des produits provençaux. Et alors, chaque fois qu'on fait des animations, les Allemands viennent nous voir en disant « Mais c'est l'image du soleil de la Provence, on est en vacances, c'est génial. »
Ça les fait rêver.
Et vous avez envie de faire ça dans d'autres villes ou pas ? Parce que si ça marche bien...
On commence par Berlin, déjà. On attend que la boutique se développe pour les trois prochaines années. Puis après, on envisagera peut-être d'autres pays, pourquoi pas.
Et les rouges, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du rosé, qui est excellent en Provence, mais les rouges, vous le soulignez, sont très bons aussi.
Ouais.
Le potentiel de garde, un vin rouge de Provence sur une belle année, Philippe Forbach ou Sophie. Philippe, il y a un petit commentaire sur la longévité des vins rouges de Provence. Ça intéresse notamment Angéline.
Ça dépend des terroirs, des cépages qu'on utilise. Là, dans ce cas-là, sur des grenages, des syrahs et des cabernets sauvignons, ouais. On a un potentiel de garde sur certaines cuvées que j'ai l'occasion de goûter de Calissane qui sont juste incroyables. C'est
combien
10 ans facilement et 15 ou 20 ans sans aucun problème.
Vous confirmez,
surtout
Sophie.
Si vous achetez quelques magnums, à boire avec modération, certes, on peut les garder effectivement avec passion.
Tiens, Philippe, le point technique de cette émission spéciale en direct du salon, pourquoi le vin se conserve mieux en magnum qu'en bouteille simple ?
Alors, petite explication mathématique. Dans un magnum, il y a deux fois plus de vin que dans une bouteille, il y a 150 centilitres.
D'accord.
Par contre, il y a la même quantité d'oxygène finalement qui est intégré dans la bouteille.
D'accord.
Et notamment l'espace entre le bouchon et le vin lui-même. Donc le rapport fait que ça ne se conserve pas deux fois plus longtemps, mais globalement à peu près une fois et demie
et c'est énorme.
Plus longtemps. Donc si vous avez des vins achetés pour vos enfants, moi j'ai mon fils qui est dans la salle ici, dans le salon.
Dans la salle, il y a beaucoup de salles.
94, je lui ai acheté des magnums. Et effectivement, aujourd'hui, 25 ou 26 ans après, ils sont encore magnifiques.
Pour terminer votre actualité, Sophie, en 2021, il paraît que vous allez prendre de la hauteur avec une maison magique.
Oui. Alors, quand on a des vignes et des oliviers, il faut se diversifier, il faut aller dans l'œnotourisme. Et là, on a restauré une maison qui s'appelait au départ la maison hantée.
Alors, la maison hantée.
Hantée.
C'est pas très sexy, ça, pour les enfants, non ?
Si, au contraire. C'est amusant, qui devient Villa Bellevue, puisque c'est la maison la plus haute de toute la région, au-dessus de l'étang de Berre, et on a une vue à 360 degrés sur toute la région. Et là, on va faire rêver nos visiteurs français, nos visiteurs étrangers.
C'est pour quand, ça ?
Et on a mis le nom sur le toit.
Oui.
Parce que quand on atterrit, qu'on arrive à Marignane, on voit Château Calissane.
Merci beaucoup, Sophie Invino
Sudrado.
Bien sûr, on viendra accueillir maintenant Arnaud Didier, œnologue et spécialiste du cidre. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors racontez-nous un peu le cidre normand. Il paraît que c'est le meilleur cidre du monde. C'est ce qu'on dit, surtout en Normandie.
On travaille bien en Normandie, mais pas uniquement. C'est vrai que, par contre, il a une vraie spécificité, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ?
Il a la caractéristique d'avoir... on a la chance en Normandie d'avoir une vraie multitude, une vraie diversité de terroirs.
Oui.
Ce qui est très particulier à la Normandie par rapport aux autres régions cidricoles.
Et alors, là, c'est un label ou c'est une marque saveur de Normandie ? Dites-nous, Arnaud.
Alors, Saveur de Normandie, c'est une marque collective, mais qui ne couvre pas uniquement les cidres. Hein, c'est sur tous les produits alimentaires.
Dont le cidre, quoi.
Dont le cidre.
Comment est-ce qu'on fait pour élaborer, vous qui êtes œnologue, du cidre ? Comment on fait ? On prend une pomme, on prend un Forbach, on mélange tout ça et ça fait du... Non ?
Alors, on part d'une matière première qui est la pomme, effectivement. Et puisque, voilà, vous avez beaucoup de références vinicoles, la première grosse différence, c'est que les fruits sont ramassés au sol.
D'accord.
Ça, c'est la première différence qui impose qu'on ait une étape de tri et de lavage très importante sur les fruits.
Et ensuite ?
Ensuite, autre grosse différence, la pomme, si vous la mettez dans un pressoir comme ça, il va rien se passer du tout.
Il faut attendre très longtemps pour qu'il se passe des choses.
Il faut la broyer avant.
Bon.
Donc la première étape, c'est de broyer les pommes. Et c'est ce qu'on appelle le marc, cette râpure de pommes, qui, elle, va être placée dans le pressoir, et c'est comme ça que le jus va pouvoir en sortir.
Arnaud, cidre et gastronomie, pour terminer, cidre et gastronomie, c'est un mariage heureux, on peut imaginer tout un déjeuner, un dîner, un souper.
On peut tout imaginer. L'apéritif est un moment qui se prête très bien, notamment avec les poirées, qui sont des boissons particulières élaborées à base de poires, ou alors avec certaines variétés de pommes plutôt acidulées. Et puis... Chez nous, en Normandie, on a le mariage parfait qui est avec le camembert de Normandie.
Un
cidre Pays d'Auge et un camembert de Normandie, il n'y a rien de mieux.
Le paradis est proche, notamment un jour de Saint-Valentin, par exemple, non ?
Ouais.
En toute
tous
saison,
les jours.
Quoi, ouais. Et alors, ces cidres, on les vend partout dans le monde ?
Excusez-moi, je ne
comprends pas. Le cidre, il est vendu partout dans le monde, le cidre normand ?
Non, il faut savoir que le cidre français est quand même
localement
consommé en France.
Merci beaucoup, Arnaud Didier. Bon vent pour ce cidre normand. Dans un instant, retour à ce salon. On parlera de choses merveilleuses, de vin bien sûr, mais aussi de fromage, de charcuterie et également de bière. À tout de suite.
En direct du Salon de l'Agriculture, Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Et oui, de retour avec Laurence Perrault qui vient de nous claquer une petite bille sympathique. Laurence qui adore les bonnes choses. Hein. Laurence, on va se régaler avec un peu de fromage, avec du vin, de la bière. Enfin, bref, le paradis, toujours avec Philippe Forbach, qui a toujours sa jolie photo du président Macron. Ça, ça va circuler. Et puis, une nouvelle invitée, Nadège Ressouche. Bonjour Nadège. Alors Nadège, vous élevez des vaches Montbéliard en Lozère. Est-ce que vous êtes consciente d'avoir le plus beau métier du monde ou pas?
Le plus beau, pour moi, c'est le plus beau. Il ne sera pas beau pour tout le monde.
Vous êtes où en Lozère exactement? Parce que c'est grand la Lozère. Hein.
Alors on est juste à côté de Marvejols.
D'accord. Et donc c'est une ferme familiale? Vous
bossez? C'est une ferme familiale. Mon mari, il élève les vaches, une soixantaine de Montbéliard. Et moi, je fabrique leur lait en fromage.
Donc chacun a son job. Là. Bosser en famille, c'est pas trop dur? Parce que parfois, le mari, il a la faim, non?
Non, c'est pas dur du tout.
Vous êtes mariés depuis longtemps?
Ça fait 13 ans qu'on vit ensemble, mais...
À 13 ans, c'est pas mal, ça. Ouais. Donc chacun se répartit le boulot. Vous êtes où physiquement, alors, dites-nous, en Lozère?
Juste à 6 km de Marvejols.
D'accord, très bien. Vous connaissez Philippe Forbach. On vous a vu pendant le mois d'août, là, en vacances, du côté de Marvejols.
C'est un très bel endroit, pas très loin d'Alès, finalement. Moi, j'avais un ami qui avait une magnifique auberge à Vialas, pas très loin de chez vous.
Tout à fait.
Effectivement, dans ce coin de Lozère, assez extraordinaire. Un peu à l'autre bout du monde, quelque part, quand on est là-bas.
La Lozère, c'est le département le moins peuplé de France.
Ça veut dire quoi, ça, Philippe Forbach? Vous n'avez pas les trucs un peu perdus?
Si on va aller au Cap pour les vacances, c'est là-bas qu'il faut aller.
Ouais.
On se ressource à ces endroits-là.
Par rapport à Saint-Tropez, par exemple. Par rapport à Saint-Tropez, là...
Non, mais à Saint-Tropez, il n'y a pas beaucoup de monde, par rapport
à... On ne vient pas chercher la même chose en Lozère.
Il y a des vaches, mais ce sont d'autres vaches. Alors, Nadège, racontez-nous les caractéristiques de ces vaches Montbéliard.
Alors, la Montbéliard, elle a une particularité, c'est qu'elle fait un lait très riche et un lait fromageable. Et c'est une vache rustique qui supporte bien nos chaleurs et nos températures extrêmes l'hiver.
Oui, il y a une amplitude quand même. Il fait très chaud l'été.
Pas cette année, mais d'habitude, on a souvent de la neige, oui.
Souvent de la neige, quoi. Et alors, donc, il y a combien? 60 vaches, c'est ça? C'est un cheptel, de taille moyenne, très grand.
C'est la taille moyenne de France.
Et alors, ce qui est très important aussi pour les vaches, c'est l'alimentation. Est-ce que vous êtes 100% OGM? Dites-nous, Nadège.
Alors, on est sans OGM. On nourrit le plus possible nos vaches avec les aliments qu'on produit sur la ferme. Et ce qu'on achète est sans OGM, oui.
Donc, et ça, vous y tenez, quoi.
Hein. Ouais, nous, on est en agriculture de conservation depuis plus de 15 ans.
D'accord.
L'agriculture de conservation, c'est on ne touche pas le sol. Il faut qu'il y ait toujours une plante sur le sol. Et c'est les vers de terre qui font office de charrue.
Les vers de terre que vous faites bosser des vers de terre, quoi, c'est ça, quoi?
C'est ça.
Alors, donc vous produisez du lait, du fromage. Alors, je vois Philippe Forbach qui est en train de tripoter au sens noble du terme, beau fromage.
Ils sont super bons. Non, mais c'est beau les fromages. D'abord, ils sont bleutés aussi beaux que vos yeux, madame. C'est pour ça que vous faites des bleus comme ça.
Vous avez parlé aux femmes et aux vaches.
C'est
très beau.
On fait deux sortes de fromages, surtout une tome fruitée et un bleu. Voilà.
Et alors, il y a aussi un peu de charcuterie, non?
Alors, un peu de charcuterie, mais j'en ai pas amené.
Ouais, ça, c'est pas
parce
bien,
qu'on élève une vingtaine de porcs par an qu'on élève sur paille avec le petit lait de la ferme, puisqu'on jette énormément de petit lait en fabriquant du fromage.
Oui.
Et donc, pour le valoriser, on élève une vingtaine de cochons et on fait de la charcuterie fermière. Voilà, juste, on le vend juste à la ferme et un peu au salon cette année.
Alors, vous vendez à la ferme, c'est-à-dire qu'on peut venir vous voir quand on passera en Lozère?
On peut venir, on a une boutique avec tous nos produits et même d'autres produits de Lozère.
Et vous ne les vendez pas que dans la boutique, vous avez également d'autres
circuits de... On a une trentaine de points entre Montpellier et Saint-Flour.
D'accord. Et c'est vous qui va s'occuper de démarcher tous ces points de vente? Parce que
c'est
du boulot. Mais vous êtes une femme formidable. Hein. Enfin,
il faut demander à mon mari.
Quel est le prénom du mari, là? Le prénom du mari?
Olivier.
Bon, d'abord, Olivier, on l'embrasse. Et deux, ta femme, elle est géniale, hein, Philippe, non? Non?
Oui, mais c'est bien d'insister là-dessus, Alain, parce que ce qu'on n'imagine pas toujours, c'est que quand on est éleveur, il faut être multi-disponible.
Ouais.
Il faut élever, s'occuper des enfants s'il y en a, s'occuper, bien sûr, de l'exploitation, vendre ses produits. Il faut être partout, finalement, à la fois.
On a une multicarte, mais c'est ça qui est génial. Parce que c'est pas du tout routinier, notre travail. Après, l'élevage de mon mari, son travail à lui, il est plus routinier, parce que tous les jours, il fait la même chose. Mais moi, mon travail à moi, il est moins routinier, parce que je vois beaucoup de monde. Là, je vis la vie parisienne
pendant 9 jours. Vous avez un bon sens du contact, hein, donc ça, c'est pas mal, quoi. Et la vie parisienne pendant 9 jours, vous venez vous encanailler avec tous ces gens sympathiques autour de vous, là. Il est là, le mari, ou pas?
Non, il va venir lui nous aider à démonter le stand. Ah,
qu'est-ce que ça représente pour vous, ce salon de l'agriculture, Nadège? C'est une plateforme de communication, c'est une rencontre, c'est la fiesta, neuf jours sans le mari, c'est quoi?
Non, c'est une plateforme de communication, c'est un apport de trésorerie, il faut être réaliste.
Vous vendez beaucoup?
On essaye, va essayer, ouais. C'est le premier jour.
Il est où votre stand, tiens, puisqu'on en parle,
Alors, notre stand, il est allée B.
Allée B.
Dans quel hall?
Stand 168, hall 3, le hall des régions.
Okay. Alors on le refait, hall 3, ça va,
hall
après
hall 3, allée B, stand 168.
Bon, et vous faites un prix aux auditeurs de Invino Sud Radio ou de Sud Radio tout court?
Bien sûr, on fera quelque chose, il n'y a aucun souci.
On peut les goûter, on peut les déguster.
Évidemment, avec plaisir.
Économiquement, comment ça se passe? On parle beaucoup du malaise, de l'agriculture, des gens qui ont du mal à vivre. Vous, comment ça se passe? Ça veut dire que vous travaillez en famille, il y a des coûts réduits parce que c'est votre temps, votre énergie.
Alors nous, sans la fabrication des fromages, la ferme n'existerait pas, ou du moins elle n'aurait pas du tout évolué.
S'il n'y avait que du lait, ça ne marche pas?
Non.
Ouais. Bon,
non.
Okay.
Le prix du lait, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a décidé de fabriquer du fromage, c'est le prix du lait.
Et pour avoir une idée, c'est quoi le prix du litre?
Alors, un prix de lait un peu valorisé, on est à 36 centimes. C'est le même prix qu'il y a 40 ans. On a retrouvé des vieilles factures de mon beau-père.
Sophie, vous confirmez, là, à votre époque, c'était déjà 36 centimes. C'est pas cher.
Et grâce à la fabrication fromagère, on a permis de développer notre ferme. Et donc, on a installé un robot de traite il y a 6 ans de ça.
D'accord.
Donc, ça soulage un peu mon mari et ça nous a permis de dégager du temps pour moi et donc de fabriquer plus.
Alors, pour terminer, Nadège, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que vous êtes geek techno dans l'Auxerre, là? Il y a un site ou pas?
On n'est pas super bon en communication.
Alors vous avez une adresse postale, fermiers. Si on vient vous voir. Il y a une adresse, non?
Si, mais il y a un site, mais il y a surtout une page Facebook. Voilà, on l'alimente assez régulièrement.
D'accord. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle donc la ferme Ressouche du Mazé, c'est ça?
Ouais, ferme Ressouche le Mazé.
Et donc, si on vient vous voir un 15 août à 8h du mat, vous nous ouvrez quand même?
Ben ouais, tout
et vous nous vendez du fromage quand même? Ouais, avec votre grand sourire?
Oui.
Bon, Philippe, on y va, non?
Allez, on y va. Lemazé.com, finalement.
Lemazé.com, quoi. Alors, dites-nous,
hashtag Lemazé.
Est-ce que vous aimez la bière? Parce que c'est très, très bien, le fromage, c'est très, très bien, la charcuterie, le lait, mais la bière, c'est pas mal aussi, non?
J'irai boire un coup chez mon collègue.
Merci beaucoup, Nadège. Ne change rien, elle est juste formidable. Hein, bravo. Exactement. Invino Sud Radio rejoint et retrouve maintenant Laurent Boiteau, dirigeant de la brasserie Melusine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-nous, vous avez commencé par l'informatique avant d'arriver à votre nirvana professionnel avec la bière. Racontez-nous ce qui se passe, Laurent, dans votre vie.
Ouais, c'est ça, en fait. Je suis issu d'une famille de distributeurs de bière, de fabricants de cidre, d'ailleurs, dans
vous
le pays nantais.
Vous êtes basé où? Alors, pas Nantais, d'accord.
Moi, je suis basé en Vendée, ouais. Et j'ai pas voulu suivre la filière familiale, donc je suis parti dans l'informatique pendant 15 ans.
Et pendant 15 ans, vous avez vendu des ordinateurs.
Et pendant 15 ans, j'ai lutté
pour
vendre de la bière, voilà.
Ouais. Et au bout de 15 ans, vous avez trouvé la voie de la raison.
J'ai fini par reprendre la brasserie, voilà.
Donc c'est une brasserie familiale, c'est ça?
C'est une brasserie familiale que mon père a repris en partant à la retraite.
D'accord.
C'est 2005, alors c'est le début des bières artisanales, en fait. Voilà.
Ouais, donc vous n'avez pas suivi une tendance, vous étiez quasiment au début, quoi.
On était au tout début, ouais.
Ça veut dire quoi? La marque, c'est Melusine? Ça veut dire que ça a une signification? Ça,
c'est une fée, c'est une chimère.
C'est une chimère, très bien. Et donc ça, c'est porteur comme nom?
Ouais, alors le nom existait, on l'a récupéré comme ça, mais c'est la protectrice des eaux de source, Melusine. Ouais. Donc il y a quand même un lien avec la fabrication de la bière et la qualité de l'eau.
Quel est le pourcentage d'eau dans la bière, d'ailleurs? À 2-3% près.
Ah ouais, alors on va enlever le taux d'alcool, puisque là on est sur de l'alcool. Le reste, c'est quasiment que de l'eau. Hein.
Que de l'eau. Quoi.
Même chose que dans le vin. Hein.
Même chose que dans le vin.
Dans un vin qui fait 13 degrés, il y a 86-87% d'eau.
Avec modération, mais qu'est-ce que c'est bon
de
la bière.
De l'eau pure, de l'eau naturelle. Ouais. Ça rassure toujours quand on dit ça.
Bon, il paraît que vous êtes super bio comme garçon.
On est super bio. On fait 60% de notre prod en bio. Ouais.
Et ça, c'est marketing ou c'est une conviction personnelle? Dites-nous la vérité. Il y a personne qui
vous écoute. C'est un peu les deux. On y est arrivé par le rachat d'un collègue.
Ah, vous avez racheté un collègue.
Qui était en Dordogne, qui était un peu en perdition.
Oui.
Et puis on a conservé les produits, on a développé les marques. Donc petit à petit, on fait de plus en plus de bio.
D'accord. Et alors, dans la gamme aujourd'hui de vos bières, si on souhaite les découvrir, sur votre stand, qui est hall combien?
Hall 3, allée F, stand 183.
Oui, enfin, on va leur faire tout à l'heure. Quoi. On fera également le stand de la Normandie et le stand de Calissade. Parce que,
dans les Pays de la Loire.
Vous avez une gamme large, vous avez quelques petits produits, c'est quoi?
Une quinzaine de recettes différentes qu'on fait évoluer au fur et à mesure des modes et au fur et à mesure de nos envies également. Des bières houblonnées, des bières plutôt rustiques, plutôt type grain. Ou des bières aromatisées avec des épices.
Ah oui, ça, il paraît que c'est à la mode, c'est tendance aussi.
Aussi, oui. Ouais.
Le degré d'alcool, c'est combien une bonne bière chez vous? Enfin,
entre,
en moyenne
entre 4 degrés et 8 degrés et demi.
Et en plus, d'abord, c'est une vraie PME. Vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui?
17.
17 collaborateurs. Ah oui. Vous avez massivement investi.
Oui. Très massivement.
Plusieurs millions d'euros, on m'a parlé de 1 million
d'euros. On a investi 3 millions l'année dernière, on réinvestit 1 million cette année.
Ouais, c'est rentable ou pas ?
Oui, c'est rentable.
La marge sur la bière, elle doit être énorme, non ?
Il y a une légende urbaine là-dessus.
Quoi ? C'était quoi ? Dites-nous alors. Non ?
Qui dit que vous jetez le verre de bière contre le mur et... Tout ce qui reste,
c'est la marge. C'est...
Non, c'est ah bon, mince. Le prix de revient.
Le prix de revient. Dites-nous, au niveau distribution, vous produisez, on a vu, hein, ouais. Vous avez mis des sous dans un bel outil de production. Vous vendez où ? Localement ?
Alors, plus les années passent, plus on élargit autour de la région. Alors évidemment, au début, c'était très localisé, puis petit à petit, Pays de la Loire, puis maintenant, un peu de Paris, un peu de Bretagne, un peu de Sud-Ouest. On arrive à vendre un peu partout en France.
Et vous produisez combien de bières par an ? Je sais pas si on... Alors, les hectos, ça parle pas trop aux consommateurs,
mais en bouteille. 15 000 hectos en bouteille, ça fait 1,5 million de litres.
1,5 million de litres.
Donc l'équivalent de 2 millions de bouteilles.
Et pourquoi est-ce que les gens pensent Belgique quand ils pensent bière ? Parce qu'on peut penser Vendée,
on pense
France,
de la même manière, les gens pensent vin quand ils pensent France.
Oui. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est bien. On change rien.
Non, mais bien sûr, ça vient de la culture des Belges.
On pense Nord en tout cas, parce que tout le monde de la France,
de la
Belgique,
France, Est de la France, qui sont des régions plus brassicoles, effectivement.
Ça vient aussi du fait qu'il y avait des céréales aussi à proximité, parce que vos céréales, par exemple, viennent de quel endroit ?
De Beauce.
De Beauce, le pays des Beaucerons, non pas des Labradors. Alors, pour vous, ce salon de l'agriculture, mon cher Laurent, donc ça vous apporte quoi ? Une visibilité ? Comme Nadège, des ventes directes ?
C'est de la visibilité, c'est de la vente directe. Mais c'est surtout de la visibilité aujourd'hui pour nous, évidemment.
Et alors le duo gastronomie et bière, ça marche ou pas ?
Ça marche très très bien,
notamment
avec les fromages, mais avec tout un tas d'aliments. Et on cuisine à la bière, hein, donc il ne faut pas hésiter.
Alors quel fromage, tiens Laurent, dites-nous.
Par exemple, des pâtes persillées avec des bières très houblonnées, très fruitées, ça marche très très bien.
D'accord.
Ou des bières très fortes en alcool, des triples, plutôt dans la rondeur. On va arriver à faire des mariages très sympas.
Alors si on fait, on va faire le mariage, tiens, on va faire en entrée avec votre bière, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plat ?
Si on est sur une blanche, on peut imaginer des plats à base de poisson, par exemple.
D'accord.
Et puis poisson avec de la cru, volaille, poisson, oui. Avec de la volaille très, également, très ça marche très bien. Exactement. Des bières ambrées notamment.
Et après sur un plat,
ça dépend ce qu'on va manger, mais si vous mangez un plat typiquement belge, par exemple. On peut imaginer des blondes un peu boulonnées aussi, avec
la carbonade.
Des plats
très légers, belges, très légers, qui tiennent bien.
Oui, des trucs super légers, bien sûr.
Pour terminer, et pour faire le parallèle avec le vin, il y a également des confréries qui concernent la bière, ou alors c'est uniquement l'apanage du monde du vin ?
Il y a quelques confréries, mais la nouvelle génération n'est pas très confrérie. Pour l'instant, on est plutôt en train de structurer notre filière, nous.
D'accord, donc l'idée, c'est également de créer de l'animation, peut-être, autour de la bière.
De l'animation, et puis d'aller défendre un peu nos intérêts.
Oui. Et pour terminer, les jeunes, ils boivent beaucoup de votre bière ou pas ? Parce que nous, sur le vin, on a un petit peu de soucis pour faire voir les jeunes.
Alors, la clientèle, elle n'est pas exclusivement la jeunesse.
Mais un peu tout le monde.
Historiquement, on dit que la bière, c'est masculin. Je pense que la clientèle se féminise beaucoup. D'ailleurs, les femmes s'intéressent beaucoup à la bière et consomment très différemment des hommes.
Il y en a plein autour de
vous. Elles cherchent plus la partie aromatique, qualitative que le volume.
Oui. Bon, donc c'est une super clientèle, les femmes, on embrasse toutes les femmes. Merci beaucoup, Laurent Boiteau, on vous embrasse aussi.
Merci
à tous. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio, spécial en public, délocalisé avec des gens formidables. On se retrouve demain. Nous serons donc chez Nicolas, place de la Madeleine. On parlera notamment d'un whisky français, Cocorico, Bellevoix, de la truffe et des Bordeaux, Côte de France. À demain, 12h30, excellent déjeuner. Venez nous voir sur le Salon de l'Agriculture. Restez fidèles à Sud Radio et respectez la plus grande des modérations. Salut!
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.